sommes lundi 14 août 2023, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'édition d'information de Studio Kalungu au micro de Fils Adam Sirfo. Au sommaire, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, dans un communiqué numéro 27, dit avoir rassemblé des preuves pour poursuivre le président Mohamed Bazoum et ses complices devant les tribunaux pour haute trahison, des précisions dans ce journal. Durcissement à la frontière entre le Niger et le Bénin. Depuis hier matin, la circulation est bloquée. Le témoignage de voyageurs bloqués est à suivre dans un instant. Dans le magazine du jour, un magistrat nous parle des sanctions prévues par la loi nigérienne pour des cas d'avortement et d'interruption volontaire de grossesse. Nous débutons ce journal par cette brève. Dans son communiqué numéro 27, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le CNSP, et le gouvernement ont vivement réagi à ce qu'ils appellent des allégations mensongères propagées depuis les événements du 26 juillet 2023. Ils dénoncent avec fermeté la campagne de désinformation visant à discréditer les autorités nigériennes et à entraver une solution négociée pour sortir de la crise. Concernant le président Bazoum Mohamed, le CNSP dit avoir rassemblé des preuves pour engager des poursuites nationales et internationales à l'encontre du président de CHU et de ses complices pour haute trahison et atteinte à la sécurité du Niger. Toujours dans le communiqué numéro 27 du CNSP sur la question de l'état de santé du président Mohamed Bazoum, le CNSP invite, je cite, « toute personne de bonne volonté et prise de paix, de justice » à s'interroger sur la sincérité de sa prétention à soutenir qu'il est séquestré alors même que les militaires n'ont jamais investi sa résidence présidentielle et qu'il dispose encore de tous les moyens de communication. Le communiqué précise que le CNSP et le gouvernement rappellent que le président Mohamed Bazoum reçoit régulièrement la visite de son médecin et que la dernière visite de ce dernier remonte au samedi 12 août 2023 de 11h30 à 15h. Une délégation du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, conduite par le général de brigade Moussa Salaou Permou, chef d'état-major des armées, était samedi à Conakry, en Guinée, où elle a été reçue en audience par le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbia. L'objectif de cette mission est de remercier les autorités guinéennes du soutien et de la solidarité qu'elles ont exprimé au Niger et particulièrement au CNSP au lendemain des événements du 26 juillet 2023. Je vous l'annonçais dans les titres depuis hier matin, la frontière entre le Bénin et le Niger a été une nouvelle fois fermée pour les transports de personnes, affectant la circulation des bus, des véhicules privés et des motocyclistes entre les deux pays. Cette mesure a laissé de nombreux voyageurs bloqués, suscitant leur inquiétude. Fadel Alou s'est entretenu avec des voyageurs immobilisés depuis hier. On les écoute. Nous avons quitté Niamey depuis le dimanche à l'aube et nous sommes bloqués ici jusqu'à présent car la frontière est fermée. La pluie s'est même abattue sur nous. On souhaite vraiment que la situation se rétablisse et que les frontières soient réouvertes.
Vraiment, on doit trouver une issue de sortie. Les gens nous demandent c'est quand le départ. Nous n'avons aucune idée sur les jours. On leur demande de patienter. L'insécurité y règne partout. S'il y a un problème, ça va nous tomber dessus.
Si on savait que les frontières sont fermées, on n'allait jamais prendre le risque de prendre la route. Malheureusement, on est bloqué ici avec des enfants et des vieillards dans des conditions pénibles. Hier, une femme enceinte a même perdu la poche des os. On a dû la ramener d'urgence à Gaya. Depuis hier, c'est dans le bus que nous dormons exposés aux moustiques. Et c'est impossible de faire marche arrière car les conducteurs du bus refusent de nous donner nos bagages. Dans un communiqué de presse rendu public hier dimanche 13 août, le bureau du conseil d'administration de la maison de la presse exprime sa vive inquiétude concernant la situation sociopolitique actuelle au Niger, marquée par des défis majeurs pour les journalistes. Pression et menaces persistent, mettant en péril la liberté de la presse, qu'il s'agisse des journalistes locaux ou des correspondants étrangers, pourtant accrédités par les autorités nigériennes. Ils sont nombreux à exercer leur profession dans une insécurité grandissante, souligne le dit communiqué. Le bureau de la maison de la presse appelle les autorités au respect de la liberté d'expression et la protection des journalistes. Les responsables du comité Union Tillabéri pour la paix, la sécurité et la cohésion sociale ont animé un point de presse hier à Niamey. La situation sécuritaire de la région, le coup d'État intervenu au Niger, la réaction de la CEDEAO et la présence de la force française sont les points abordés. Écoutons Amadou Haroun Meïga, coordinateur du comité, au micro de Mokhtar Hamadou.
Il y a non seulement le changement intervenu au Niger depuis le 26 juillet, il y a la CEDEAO qui est rentrée dans la danse, il faut en parler. Il faut parler également aussi du comportement des militaires français. Il faut aussi apporter nos remerciements à un certain nombre de pays qui se sont manifestés pour une solidarité pour le Niger dans ces moments difficiles. Nous avons créé ce comité uniquement et essentiellement pour l'insécurité. Dieu merci, tout ce que nous avons eu à dénoncer, à déplorer, le CNSP a servi de ça pour faire son coup. Il a parlé de la mauvaise gestion de l'insécurité. Donc nous nous inscrivons dedans. Puisqu'ils ont fait le constat, je pense qu'ils vont prendre les dispositions nécessaires pour éradiquer cette insécurité. Que vous soyez de la région de Tillabéri ou pas, partout où il y a l'insécurité, nous prions Dieu que ces hommes forts-là qui sont venus, que Dieu leur donne les moyens nécessaires et le courage pour combattre l'insécurité partout où ça se trouve au Niger, pour que les Nigériens retrouvent la paix, la sécurité et vaquer à leurs occupations.
Autre déclaration, celle du cadre d'action pour un développement durable, la CADDD, rendue publique hier. Dans celle-ci, le CADD demande aux autorités de créer les conditions de retour des personnes déplacées de leur localité et la réouverture des écoles fermées suite à l'insécurité dans la région de Tillabéri. L'extrait de la déclaration est lu par Bourem Seynikano, deuxième vice-président du CADA. On l'écoute sur des propos recueillis par Alamin Ouachar.
C'est avec une grande satisfaction et soulagement que nous accueillons l'avènement du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP au pouvoir. Deux, nous demandons le retour rapide des personnes déplacées dans leur village pour que celles-ci puissent profiter de l'hivernage. La réouverture des écoles fermées depuis plus de 5 ans pour la rentrée 2023-2024 pour cause d'insécurité. Dans ce cas, nous sommes disponibles à accompagner l'État à sécuriser ces écoles. L'autorisation de la circulation des motos dans les zones interdites. 3. Nous exigeons le départ des forces étrangères et nous appuyons le CNSP dans les mesures prises sur les accords entre la France et le Niger dans le domaine militaire. Nous fustigeons et condamnons les mesures prises par la CEDEAO et l'UMOA à l'encontre du Niger jusqu'à vouloir envoyer des forces à rétablir l'ancien régime.
Après de fortes pluies tombées vendredi et samedi dans la ville de Tawa, celles-ci ont occasionné l'effondrement de beaucoup de maisons dans plusieurs quartiers de la ville. Le nouveau gouverneur de la région, le colonel Oumar Tawaye, a fait le déplacement pour voir la situation. Il a demandé à ce que les victimes soient réinstallées dans les écoles avant de trouver une solution. On l'écoute au micro de Abdelé Aoussouk.
Des maisons se sont écroulées, il y a même eu perte en vie humaine. Nous nous sommes rendus chez la victime pour présenter nos condoléances. De ce que nous avons constaté, en fait, c'est un espace connu comme lit de passage des eaux. Et un lit de passage des eaux, quelle qu'en soit la durée, un jour il reprendra son cours. C'est le cas. Il faut aussi reconnaître qu'il y a une certaine négligence, puisque connaissant que c'est bel et bien un lit de passage des eaux, les gens se sont installés. Nous sommes venus sur place avec une délégation composée des maires, de la protection civile, du président du conseil des villes et des humanitaires. Et nous avons instruit de trouver là où il faut immédiatement reloger les victimes. Déjà, il y a eu un mort. Il y a les établissements scolaires où il faut recaser ces familles. Nous allons réfléchir s'il faut faire un déguerpissement et trouver un site pour ces personnes et trouver une solution à cela.
L'actualité est toujours en région. La mairie de Douchi et ses partenaires ont remis vendredi 11 août des charrettes bovines et des intrants agricoles pour le maraîchage au profit des jeunes sans emploi, des familles vulnérables dans le cadre du projet de réinsertion des enfants en situation de vulnérabilité. Ces jeunes ont bénéficié de parcelles de 0,12 hectares chacun au niveau du site maraîcher. Des précisions avec Boubacar Makigoudou, maire de Douchi, au micro de Ali Obawa.
La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui consiste à la remise d'un kit à deux jeunes que nous avons formés dans le cadre donc de la récupération des enfants de la rue, qui ont été donc formés d'abord au centre Waïkei, à qui nous avons donné un site pour la culture maraîchère. Donc ce projet, comme vous le savez, il est conduit avec le projet prévu. Ce sont des ONG françaises qui nous appuient dans le cadre donc de l'association des jeunes en difficulté. C'est l'occasion aussi de féliciter ces jeunes-là qui ont tenu la formation, qui sont restés aussi sur le terrain pour faire cette culture maraîchère. Vraiment, nous les remercions et nous les encourageons et nous souhaitons que ça serve d'exemple aux autres enfants pour qu'eux aussi, ils voient que vraiment avec un peu d'abnégation, un peu de courage, de persévérance, ils peuvent sortir des situations difficiles pour être désormais maîtres d'eux-mêmes.
Place à présent au magazine du journal. L'avortement est un acte d'interruption volontaire de grossesse. C'est une infraction à la loi pénale qui appartient à la grande catégorie des crimes et délits contre les personnes, à l'image de l'assassinat, du meurtre ou l'infraction de coups et blessures. Pour en savoir plus sur cette infraction, je vous propose d'écouter cet entretien accordé par Attaher Liman Ahmed, magistrat, à notre correspondant Anissé Karim.
D'un point de vue juridique, c'est l'acte par lequel une personne provoque ou déclenche un processus qui consiste à suspendre ou à interrompre une grossesse chez la femme. La loi a parlé simplement d'avortement. Dès qu'il y a une interruption volontaire de grossesse chez ces jeunes femmes par l'intervention humaine.
Et quand est-ce qu'on parle d'interruption médicale ou thérapeutique de grossesse?
Lorsqu'il est motivé par des raisons médicales, soit parce que la poursuite de la grossesse serait dangereuse pour la santé de la femme, soit parce que le fœtus ou l'embryon est atteint de malformations ou d'une maladie grave et incurable, on parle d'interruption médicale ou thérapeutique de grossesse. Donc dans ces cas-là, il n'y a pas à proprement parler d'infraction d'avortement. L'avortement, il ne faut pas qu'il soit motivé.
Alors quels sont les éléments constitutifs d'un avortement?
Pour qu'il y ait avortement d'un point de vue juridique, il faut d'abord qu'il y ait un acte matériel d'interruption d'une grossesse. Et il ne faut pas que cette intervention humaine-là soit motivée par des raisons médicales. Ensuite, il faut que la personne agisse en connaissance de cause, c'est-à-dire avec l'intention d'interrompre volontairement une grossesse.
Et quelles sont les peines encourues?
Pour ce qui est de l'interruption de grossesse en tant que tel, l'article 295 du code pénal dispose que le coupable sera puni d'un emprisonnement de 1 à 5 ans et d'une amende de 50 000 à 500 000 francs. L'emprisonnement sera de 5 à moins de 10 ans s'il est établi que le coupable s'est livré habituellement aux actes visés à l'alinéa précédent, c'est-à-dire à l'avortement, ou si la victime est mineure de moins de 16 ans. Donc, ce sont des circonstances aggravantes. Et l'alinéa 3 de l'article 295 toujours précise qu'il sera puni d'un emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d'une amende de 20 000 à 200 000 francs. La femme qui se sera provoquée l'avortement à elle-même ou aura tenté de se le procurer ou qui aura consenti à faire usage des moyens à elle indiqués ou administrés à cet effet. Les médecins, les sages-femmes qui auront indiqué, favorisé ou pratiqué les moyens de procurer l'avortement seront condamnés aux peines prévues aux alinéas 1 et 2 de l'article précédent. C'est pour ce qui est des personnes, les médecins et les sages-femmes et les chirurgiens que je viens de citer, c'est la suspension pendant 5 ans de l'exercice de leur profession qui sera d'office prononcée.
Ce journal est à présent terminé. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes. Juste après nos journaux en langue nationale, vous pourrez suivre le forum de Studio Kalongo à partir de 18h15. Il a pour thème « Comment repenser la gestion de la situation sécuritaire de la zone des trois frontières ». C'est un forum présenté par Mokhtar Hamadou. N'oubliez pas d'écouter les journaux et les magazines sur le 325 avec la puce RTL gratuitement et le reste des productions sur l'application Studio Kalongo. Disponible sur Play Store.
Studio Kalangu. Suivez les programmes du Studio Kalangu à Filengue
sur la radio Muria Talaka
95.1 MHz, à Tilaberi
sur la radio Tebonse
97.5 MHz, à Dolbel
sur la radio Gorouel FM
95.1 MHz, à Saï
sur la voie de la Tapoa
99 MHz, à Walam
sur la radio Barou
95.1 MHz, à Tera
sur la radio Liptako
98.7 MHz, à Ayarou
sur la radio Sudi
97 MHz.
À Bankilaré,
sur la radio Alher,
98 MHz. À Tawa,
sur la radio Tambara,
107 MHz.
À Tamaské,
sur Moulière Karkara,
98 MHz.
À Bouza,
sur la radio Takarkara,
99 MHz.
À Madawa,
sur la radio Saraounia,
102.1 MHz.
Studio Kalangou.